13h02, affaire suivante, et pour m'accompagner cette semaine, pas de Dominique Rizet qui se repose, mais une Pauline Revenat, avec plaisir qu'on accueille. Bonjour Pauline, chef du service police-justice de BFM TV. C'était il y a 13 ans, jour pour jour, le 21 avril 2011, les corps d'Agnès, Arthur, Thomas, Anne et Benoît étaient retrouvés tués, dissimulés sous la terrasse du 55 Robert Schuman à Nantes. Débutait alors l'affaire du pont de Ligonnès, une des affaires judiciaires les plus fascinantes de notre histoire. 13 ans que les enquêteurs continuent de traquer Xavier Dupont de Ligonnès. Et cette semaine encore, eh bien, la justice a publié le résultat d'analyse ADN effectuée sur une canette il y a quelques semaines. Canette utilisée dans une communauté religieuse du Doubs. Certains pensaient avoir reconnu Xavier Dupont de Ligonnès. Pourquoi chaque signalement est-il pris au sérieux? Comment enquête encore aujourd'hui la police sur Xavier Dupont de Ligonnès? Tous les détails avec nos invités dans un instant, mais d'abord retour sur cette impossible traque avec Emeline Darcourt.
5 corps sous la terrasse du 55 boulevard Maurice Schuman à Nantes, celui de sa femme et de 4 enfants de 13 à 20 ans qui ne donnaient plus signe de vie depuis une quinzaine de jours. Mais aucune trace de Xavier Dupont de Ligonnès. Parmi les dernières images du père de famille, un retrait au distributeur de Roquebrune-sur-Argens dans le Var le 14 avril. Dans cette région montagneuse, boisée, creusée de galeries bien connues de Xavier Dupont de Ligonnès, des recherches d'envergure commencent. Elles se poursuivent malgré les mois qui passent, comme ces fouilles d'anciennes mines de charbon en 2013 ou celles d'un campement dans la forêt où des ossements humains ont été retrouvés.
Nous ne savons, à l'heure à laquelle je vous parle, rien sur l'identité de cette malheureuse personne qui est morte là-haut.
Les analyses montrent qu'il ne s'agit pas de Xavier Dupont de Ligonnès. Les signalements se multiplient. Il aurait été aperçu dans ce monastère de Roquebrune-sur-Argens.
On est 5 ici, mais on n'est jamais plus de 5.
Vu dans un avion en partance pour l'Écosse avec des empreintes digitales qui correspondent en partie. Fausse piste. Des recherches dans une abbaye traditionnaliste sont vaines, elles aussi. Dernière rencontre présumée, le mois dernier à Montferrand-le-Château, l'ADN recueilli sur la canette d'un vagabond dans ce couvent n'est toujours pas celui de Xavier Dupont de Ligonnès. 13 ans après sa disparition, l'enquête compte 900 signalements. Un mandat d'arrêt international délivré en 2011 est toujours en vigueur et toutes les pistes restent ouvertes.
Le mystère perdure et une piste de plus s'est refermée cette semaine. On va essayer d'analyser tout ça avec nos invités. Alain Bauer, bonjour. Bonjour. Vous êtes évidemment professeur de criminologie au CNAM, responsable du pôle sécurité défense, auteur notamment du livre Au bout de l'enquête, saison 2 aux éditions First. À vos côtés, Valentin Collin, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste police-justice à l'Est républicain et c'est vous qui aviez sorti ces informations qui ont conduit à ces analyses ADN. On va commencer par là. On va reprendre cette dernière piste, évidemment. Une de plus. Racontez-nous, on est à Montferrand-le-Château, c'est bien ça. Qu'est-ce qui se passe?
En fait, le 9 mars, il y a une personne qui va se présenter à la communauté des Sœurs de Béthanie. Donc c'est à Montferrand-le-Château, c'est un couvent qui a été créé par le Père Lataste et qui œuvre pour réinsérer des personnes qui ont commis des délits, en fait. Ouais. Et une de ces personnes va se présenter à une veillée de prière accompagnée d'un vagabond, comme vous l'avez très bien dit. Et cette personne va indiquer qu'il marche sans but, sans identité sur les chemins de France. Donc il va passer une première nuit à Montferrand-le-Château entouré de ces personnes. Et il va être hébergé une seconde nuit à Montferrand-le-Château, toujours chez une autre fidèle, avant de reprendre les chemins le 11, tout simplement.
Et là, il y a des gens qui vont penser que c'est Xavier Dupont de Ligonnès, qui vont dire, mais en fait, on le reconnaît.
Ah, tout à fait. Alors, il faut savoir que au même moment, la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès sort un livre, Christine Dupont de Ligonnès, sur son frère. Ouais. Et donc, à ce moment-là, on voit à nouveau Xavier Dupont de Ligonnès sur toutes les télés de France. Et voilà, on pense que ces personnes-là ont vu à nouveau et peut-être que ça a donné une appétence pour le reconnaître. Et elles vont se dire que cette personne, effectivement, correspond en tout point à cet homme.
Alors, je parle sous votre contrôle. Il y a donc 3 personnes qui le reconnaissent. Est-ce qu'il y a des ressemblances physiques? Et Alain Bauer, est-ce qu'on peut parler d'une projection collective dans ces cas-là? Effectivement, réminiscence, on le voit partout. Du coup, on a l'impression de le voir à tout endroit.
Alors, en général, le premier, il y croit vraiment. Et les autres, parce que le premier y croit vraiment, le ou la première d'ailleurs, décide unilatéralement que, bah oui, pourquoi pas, peut-être. Et donc, vous avez un phénomène de... Alors, souvent, c'est de la psychose collective, ce qui n'est pas le cas hein, dans ce cas précis.
C'est la projection, là.
Un phénomène de projection et de, bah oui, pourquoi pas, après tout, ah oui, en y repensant. Puis, ça, c'est un peu comme quand on semble reconnaître quelqu'un qu'on a en fait vu par ailleurs et que la coïncidence de l'événement, c'est le cas notamment des faux témoignages, des vrais faux témoignages. Mm-hmm. Je crois vraiment que la personne que je reconnais dans la présentation est le bon, parce qu'en fait, j'ai vu un reportage où il y avait une photo qui n'a rien à voir avec ce qu'on se passe. Mais en fait, voilà, c'est un peu comme si on nous confondait juste parce qu'on a le même coiffeur, pardon.
Voilà. C'est très illustrant.
Oui, c'est très illustrant.
C'est très clair. Ouais. Du coup, ils vont quand même, les enquêteurs vont se saisir de ces signalements. On va donc saisir une canette, je parle sous votre contrôle, et on va conduire des analyses ADN. C'est cela dont on a eu le résultat cette semaine.
Voilà, exactement. Alors, ils ont saisi plusieurs objets, des canettes, des verres dans lesquels cette personne a bu, et ça va être envoyé à l'IRCGN, qui ont mené des investigations ADN.
L'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale.
Pontoise.
Voilà, à Pontoise.
Tout à fait.
Qui a mené des recherches ADN, et les résultats viennent de tomber, effectivement. Ce n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès qui est venu ce soir-là à Montferrand-le-Château.
Est-ce qu'on est vraiment déçu?
Alors, à chaque fois, à 99,9%, les enquêteurs vous disent effectivement, c'est pas lui. Mais
sauf qu'ils ont une obligation, pardon, de vérifier.
Tout à fait. Et il y a toujours un mais dans leur esprit, ce petit 0,1% qui leur dit, et si c'était lui? Et j'en discutais la semaine dernière avec un gendarme qui me disait, peut-être qu'un jour, si Xavier Dupont de Ligonnès est encore en vie, peut-être qu'on pourrait l'avoir de cette façon-là.
Ils ont une obligation, Alain Bauer, comme le disait Pauline, de tant tout traquer
est, tant que l'affaire n'est pas cassée, et même si elle l'était d'ailleurs, l'idée que le poids dans l'opinion publique de cette affaire amène mécaniquement à, faute de corps, à chercher le vivant. Ou à trouver un cadavre qui permettrait de faire la même étude que ce qu'on avait vu pour le petit Émile Soleil, par exemple, qui a été de dire, eh bien, on va vérifier. Alors là, l'obligation était encore plus forte car le délai était moins long. Là, je vous rappelle que c'est une affaire qui date de 2011.
Oui, 13 ans.
Donc ça fait.
Et d'ailleurs, le signalement n'était pas non plus farfelu, parce que c'est une communauté religieuse.
C'est un des sujets récurrents sur lesquels on le voit dans à peu près toutes les communautés religieuses possibles et imaginables, et où il y a, soit la personne est toujours là et ça n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès, soit elle est passée et des éléments permettent d'indiquer que non, ça n'est pas possible. Mais il faut se rappeler que dans cette affaire depuis le début, au-delà de toutes les élucubrations, les folies, les projections et le reste, il y a un sujet. Dans la quasi-totalité des meurtres familiaux, le meurtrier meurt avec sa famille ou se rate à côté de sa famille ou reste à côté de sa famille et assume. Il n'y a qu'un cas connu où ça n'est pas arrivé, c'est un cas américain où, 15 ans après, je crois, on retrouve le meurtrier vivant,
qui a refait sa vie.
Ayant refait sa vie, parce qu'il est un pur meurtrier et pas dans un délire psychotique, etc.
Donc on
est
dans un
sujet qui est, tant qu'on n'a pas découvert son cadavre, l'option « il est vivant » est plus vraisemblable qu'une autre.
Oui, mais là, est-ce que c'est l'hypothèse, tous les deux, je vous pose la question très ouverte, est-ce que c'est l'hypothèse la plus crédible, selon vous, que Xavier Dupont de Ligonnès se trouve quelque part en vie?
Alors,
vous êtes
à défaut d'autre chose, la plus crédible.
Et vous,
pas
Valentin?
La seule, la plus crédible.
Moi, je vais être à la fois, il y a tellement d'hypothèses qui penchent pour le suicide. On a tous regardé un nombre de documentaires assez incroyable. Et à la fois, effectivement, est-ce qu'on ferait tout ça pour se suicider?
Sauf que dans tous les cas de suicide, c'est à proximité ou sur place. Le problème, c'est que on a des critères assez simples. Oui, pourquoi? Mais s'il se suicide, il le fait en direct, sur place, à côté, à proximité, dans un lieu qui permet de le retrouver, car le suicide est une forme d'expiation qui permet de dire « j'ai tué, mais je me suis éliminé ».
Surtout dans les valeurs judéo-chrétiennes.
Et même quand on a récemment un homme qui tue ses enfants, il se rate, mais à proximité. On est toujours dans cette logique. Nous n'avons pas quasiment pas, je suis toujours prudent parce que en cherchant bien quelque part, voilà. Le seul contre-exemple connu, structuré, il est vivant, il a refait sa vie, il a changé d'identité, il a été retrouvé par hasard, par bonheur, par chance.
Suite à une émission.
De recherche. Et donc, faut toujours être très prudent. Ça n'est pas la seule hypothèse. Je ne dis pas que j'y crois plus qu'une autre. Je dis que la plus crédible est, comme il n'est pas mort, il est vivant.
D'accord.
Comment on a réagi localement quand il y a ces signalements? Est-ce que tout d'un coup, ça monte en pression et tout le monde se dit, ça y est, on a Xavier Dupont de Ligonnès? Comment ça se déroule?
Alors, au début, je pense que tout le monde a un sourire aux lèvres parce que des signalements, il y en a eu des centaines, voire des milliers. Mais Bon, comme les
je crois qu'il y en a eu plus de 2000 pour être
précis. Il y en a eu 2000, hein, ouais. C'est ça. Mais plus les éléments sont mis à jour par les enquêteurs, le côté spirituel, ça c'est vraiment quelque chose depuis le début de l'affaire. Hein. Les enfants ont été enterrés avec des petites
des
crucifix, des vierges. Voilà, donc ça depuis le début, c'est une piste qui est vraiment plausible pour les enquêteurs. Ouais. D'ailleurs, en 2018, à Roquebrune-sur-Argent, lors des perquisitions, oui. Les enquêteurs ont vraiment cru qu'ils allaient tomber sur David Dupont de Ligonnès. Donc effectivement, au niveau local, plus les jours avancent, plus on se dit ça peut sentir bon. Voilà, c'est effectivement.
Et quand c'est comme ça, il y a un mécanisme qui s'enclenche. C'est-à-dire que bon, on l'a vécu hein, avec la dernière personne interpellée qui n'était pas lui. Il y a une impatience autour de cette affaire.
Bah, c'est-à-dire que les policiers et les gendarmes souhaiteraient finir avec cette affaire qui les poursuit. C'est un peu comme l'affaire du petit Grégory. Hein.
Oui. Sauf qu'elle continue à durer, l'affaire du petit Grégory.
Oui, mais hein. C'est ce que je dis. Ouais, c'est la même chose. L'affaire du pont de Ligonnès continue à durer. Donc l'idée que tout d'un coup va y avoir l'ADN sur le timbre, qui n'y est pas, l'ADN sur la cordelette, qui n'y est pas non plus, mais pendant ce temps-là, ben, on se dit, enfin, va y avoir un... Et là, on réinterpelle quelqu'un qui aurait pu parler, mais qui n'a pas parlé, parce que la garde à vue s'est interrompue un peu trop tôt. Mais cette fois-ci, peut-être que... Et donc, on se fait un sketch. Et en fait, il faut comprendre que le feuilletonnage criminel est né en France au moment de l'affaire Troppmann, en 1869, au moment où un journal en a fait un feuilleton pour se vendre mieux, mais aussi parce que les rebondissements de l'affaire permettaient tous les jours de créer un priorité au direct qui permettait de dire il se passe un truc, donc on va regarder. Et vous l'avez dit, 2000 signalements. Heureusement, personne n'a fait 2000 fois, on arrête tout et ça y est, il y a eu une affaire. Mais sur celles qui sont les plus crédibles ou les moins incrédibles, il dit à juste raison que le rapprochement entre une communauté religieuse, si possible assez intégriste,
enfin, supposément, ça crédibilise,
supposément, avec un vagabond qui irait sans but de ci, de là, pourquoi pas ? Et donc, évidemment, ça crée cet engrenage qui permet cette accélération des événements. Les policiers se disant « chouette, on y est arrivé », les journalistes faisant leur métier d'informer en disant « il se passe quelque chose ». Et d'ailleurs, on leur reprochait de ne pas le faire. Hein. Je ne suis pas du tout en train de faire la critique du sujet. Nous, parce que du coup, on vient expliquer que oui, mais non, c'est pas aussi simple que ça, avec vous d'ailleurs. Mm-hmm. Et donc, tout ceci permet de comprendre pourquoi on doit le faire.
Bien sûr.
Pourquoi il y a une telle surexposition médiatique ? Parce que l'affaire a eu un écho beaucoup plus important. Vous voyez, vous parliez d'au bout de l'enquête tout à l'heure. Au début, on se racontait ça avant. Sur les 108 premières affaires, la moitié sont totalement inconnues du grand public. Ouais. Totalement. Elles n'ont jamais fait l'objet d'autre chose que peut-être d'une page dans le quotidien régional, mais il n'y a pas eu de surexposition médiatique. Et l'autre moitié, c'est la surexposition médiatique. Ouais. En fait, elles fascinent tout autant les unes que les autres, mais il faut qu'il y ait des rebondissements.
Sur cette affaire, il y a des signalements, on va prélever, on a l'obligation de le faire. Que font d'autres, les enquêteurs, 13 ans après ? Comment on travaille sur une affaire qui a 13 ans ?
Ah ben, d'abord, quand elle est aussi vivante que celle-là, parce qu'une affaire, c'est soit vivant, soit mort. Ouais. Or, dans beaucoup d'affaires, vous verrez tout à l'heure dans l'affaire Dino Scala, l'affaire suivante,
exactement.
À quel point un rebondissement nouveau fait qu'une affaire qu'on croit totalement classée, qui a été jugée définitivement, l'accusé a reconnu, pas tous, mais une partie des faits, le fait de retrouver tout d'un coup une victime qui sort du cadre traditionnel, on repart. Donc, il y a toujours des équipes qui soit reprennent les dossiers, parce qu'ils sont pas vraiment totalement finis, soit continuent à les expertiser. On a dans les affaires Fourniret, par exemple, des dossiers qui ne sont toujours pas clos. Fourniret est mort, il ne sera plus jamais condamné pour ça, mais Monique Olivier est là, alors de temps en temps se dit oui, peut-être, mais oui, mais non, elle va le faire, elle va pas le faire. Et donc, vous avez soit une sorte de permanence pour des affaires extrêmement sensibles, soit désormais, depuis la création du pôle Colquet, c'est vrai, mais c'était déjà vrai à la gendarmerie avant, dans les petites unités spécialisées de suivi des affaires froides, très froides ou très très froides, une capacité à garder désormais la mémoire, à ne rien classer définitivement et surtout à garder de l'expérience et de la compétence sur les affaires dites complexes, sérielles ou exceptionnelles. Donc, ils continuent à travailler, à emmagasiner des éléments et puis quand il se passe quelque chose, à ressortir un dossier, non pas du 8e sous-sol d'un truc qui a été inondé 3 fois et mal classé, mais des dossiers vivants, gérés, informatisés, avec des outils d'intelligence artificielle de plus en plus perfectionnés. Ils ne remplacent pas le cerveau des enquêteurs, mais ils accélèrent leur capacité à, et donc ça aide.
C'est justement le regard neuf aussi de certains enquêteurs qui peuvent poser sur ce dossier, qui peut réussir à débloquer des choses. Ce qu'on sait, c'est que la dernière image de Xavier Dupont de Ligonnès est une trace numérique. C'est cette vidéosurveillance à Roquebrune-sur-Argent. On est entre le 14 et le 15 avril.
Dans le bar.
Exact. Et ensuite
très loin de Nantes.
Voilà. Ça, c'est la dernière trace numérique.
Et c'est l'indication la plus probable de pas de suicide, pas d'élimination, la fuite, parce que c'est très loin, parce que ça n'a rien à voir avec aucun des cas précédents, et parce que cette anomalie dans son comportement, dans un assassinat familial, semble privilégier l'hypothèse de la fuite plutôt que du suicide.
Factuellement, il a probablement une arme sur le dos. Mais ça,
il a un sac à...
On suppose qu'il a quelque chose.
Un dernier petit mot de tambouille interne, mais parce qu'il est intéressant, Valentin, quand on traite une affaire avec tout le poids qu'il y a derrière et qu'on a une info comme ça et qu'on va la sortir, on s'y prend à plusieurs fois pour vérifier, recouper, se dire j'y vais pas. On avait tous cru retrouver Dupont de Ligonnès il y a quelques temps.
Bien sûr, ouais, il y a un vrai traumatisme Dupont de Ligonnès dans la presse. Depuis Glasgow, on s'en souvient tous. Voilà, aujourd'hui... D'autant que c'est des enquêteurs locaux, là on parlait d'enquête, c'est des enquêteurs locaux qui ont mené les investigations, c'est pas les policiers de la PJ de Nantes qui sont venus à Besançon, c'est la brigade des recherches de Besançon, et je leur rends hommage, qui ont mené ces investigations. Donc évidemment, voilà, même eux avaient des photographies, hein, il y a des photographies, là on le voit à l'image, mais eux avaient des photos que les fidèles avaient prises de cet homme-là. Et effectivement, nous, en le sortant, eh ben, on s'assure auprès du procureur de la République de Besançon que l'enquête tient, on essaie de recouper avec un maximum d'enquêteurs, en leur demandant leurs avis, hein, en disant mais est-ce que c'est complètement farfelu, est-ce qu'on... Bon, voilà, 99,9%, effectivement, c'est pas lui, mais il y a toujours cette infime
chance.
Après,
rien que le fait qu'il y ait un signalement, c'est une information.
Rien que le fait, nous, c'est le deuxième dans le Doubs. Il y en avait déjà un en 2020, je crois. Un SDF à Pont-de-Roide avait été aperçu dans la rue. Quelqu'un lui avait payé un café. Ça tenait pas du tout. Là, ça tenait beaucoup plus. Donc, effectivement, voilà, il y a un travail d'investigation, de recoupement. Et derrière, on sort ce dossier. Ouais.
Moi, je voudrais rendre hommage à la qualité du travail des journalistes de la presse quotidienne régionale.
C'est vrai.
Parce que dans toutes les affaires que nous traitons, que nous essayons de décrypter, de montrer, de faire de la pédagogie d'affaires, ce que vous faites ici aussi, eh bien, ils sont les éléments les plus importants de l'environnement, de la précision, du détail de l'enquête, et ils sont absolument indispensables à la connaissance des faits. Je profite parce que
vous avez bien raison. C'est pour ça qu'on les invite. Valentin, vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup,
merci
Valentin. Alain Bauer, vous restez avec nous parce qu'on va parler de Dino Scala. Dans un instant, Dino Scala, celui qu'on surnomme le violeur de la Sambre, déjà condamné pour 54 viols, agressions sexuelle, tentative de viol, mais de nouvelles accusations viennent de surgir. La longue liste de ces victimes va-t-elle encore s'allonger? On va recevoir dans un instant l'avocat de l'une de ces nouvelles plaignantes. À tout de suite.
BFM Radio.
Dino Scala est-il un prédateur sexuel encore plus redoutable qu'on ne le pensait? Celui qu'on surnomme le violeur de la Sambre a été condamné en juillet 2022 pour 54 viols, agressions sexuelles et tentatives de viol. Une liste impressionnante de victimes qui pourrait encore s'allonger. Deux signalements viennent de ressurgir dans cette affaire. Deux femmes qui pensent avoir été abusées par Dino Scala. Nous recevrons dans un instant l'avocat de l'une de ces plaignantes. Mais d'abord, retour sur le parcours de cet homme. Troublant par son aspect Monsieur Tout-le-Monde, Emeline Darcourt.
Des dizaines de femmes agressées de dos, avant le lever du jour, par un homme au visage dissimulé qui les étranglait d'une cordelette et entravait leurs mains. Le violeur de la Sambre a sévi sur un tout petit périmètre dans les environs de Maubeuge, mais sur une longue période, de 1988 jusqu'à son arrestation en 2018. 30 ans sans être inquiété.
C'est quelqu'un qui n'a jamais été condamné, qui travaillait, qui avait une famille, qui a des enfants. Voilà, pardonnez-moi cette expression, mais un peu tout le monde. Voilà.
Dino Scala, père de famille, né en 1961, habitait cette maison à Pont-de-Sambre. Il a entraîné et présidé un club de foot local et travaillait comme ouvrier de maintenance dans une entreprise d'électromécanique. Monsieur Tout-le-Monde était aussi un bon collègue.
C'était une personne comme une autre. Genre, j'avais un souci au boulot ou quelque chose que j'arrivais pas à faire, bah je l'appelais, il m'aidait.
Lors de son procès en 2022, Dino Scala explique avoir agi en prédateur, en chasseur, mu par l'insatisfaction d'être éternellement le second en famille comme au travail. Les victimes, elles, décrivent les viols, la lame de l'opinel, les cordes qui serrent jusqu'au sang et la peur qui reste des années.
Ça nous a permis... à nos victimes de montrer que Dino Scala, c'était pas monsieur parfait comme il a été décrit par ses amis.
Dino Scala a été condamné à 20 ans de prison pour 54 agressions, dont 16 viols. La justice travaille encore sur d'autres crimes dont il pourrait être l'auteur.
et invité d'affaires suivantes. Plana Radenovic, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste police-justice à RTL, directrice de la collection Polar Réel aux éditions Michalon, et c'est vous qui avez révélé ces informations sur ces nouvelles plaintes. Merci d'être avec nous. Emmanuel Rigler, bonjour, maître. Bonjour, vous êtes avocat et vous défendez l'une de ces femmes qui vient de signaler ces agissements et qui porte ces accusations, en tout cas qui imagine qu'elle a peut-être été victime de Dino Scala. Vous allez nous raconter son histoire, évidemment. Et Alain Bauer est resté avec nous. Merci beaucoup. Plana, d'abord, ces informations que vous nous avez apprises. Il y a donc deux nouveaux signalements dans un dossier déjà très lourd, qui est celui de Dino Scala.
Oui, ce qu'on a appris là ces 6 derniers mois, c'est suite à la forte médiatisation autour de l'affaire, notamment la série Sambre qui a eu beaucoup de succès. Il y a certaines femmes qui se sont dit que finalement des agressions, des choses qu'elles avaient peut-être enfouies au plus profond d'elles-mêmes, elles voulaient que la police enquête dessus et elles se disent donc victimes de Dino Scala. Il y a donc deux signalements qui sont étudiés, mais selon mes infos, il y en avait un troisième qui a été fait, mais qui a été écarté parce que c'était trop compliqué de le lier à Dino Scala. Il faut savoir que ce sont des signalements sur des faits très très anciens.
Et effectivement, il va falloir recouper tout cela, vérifier ces signalements. Maître, la femme que vous représentez, qui a donc cette idée qu'elle a peut-être été abusée par Dino Scala, est-ce que vous pouvez nous raconter son histoire? Qu'est-ce qui lui est arrivé?
Elle n'a absolument aucun doute, hein. Elle est absolument certaine. À partir du moment où Dino Scala a été interpellé la première fois, elle a tout de suite compris qu'on parlait du même homme. Après, c'était une femme dans une situation extrêmement particulière. Elle est lycéenne, elle part à l'école un samedi matin d'hiver. On est en janvier 1987. Et cette femme part prendre le bus pour regagner son lycée et elle se fait agresser avec le même mode opératoire que celui qui a été décrit tout au long de ce procès. Un homme qui arrive en voiture par derrière, qui se précipite au dernier moment, qui étrangle, qui insulte, qui menace, qui fait tomber au sol. Enfin, véritablement, et puis des choses aussi objective, une odeur extrêmement particulière, une obsession pour les seins, enfin bref, ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sauf que à ce moment-là, cette dame a pris l'habitude de vivre avec ce drame, elle l'a rangé comme beaucoup d'autres femmes sous le tapis en essayant de vivre avec ça. Et puis finalement, voyant que la justice fonctionnait bien, voyant que les policiers s'excusaient puisque cette femme a eu aussi son dossier de perdu à l'époque, s'est dit, je reprends confiance, et puis voyant effectivement les uns et les autres mettre toute une dynamique pour arriver vers une vérité judiciaire.
C'est le premier procès qui lui a donné la force de se dire, en fait, je peux parler.
C'est un élément du tout. Effectivement, la bonne tenue de ce premier procès, mais ça, et puis tout le reste aussi, c'est-à-dire que des policiers qui s'excusent,
policiers qui ont été mieux formés aussi, peut-être, à recueillir la parole aujourd'hui.
Alors, pour le moment, elle n'a encore été entendue par personne. C'est-à-dire qu'effectivement, elle avait déposé plainte en janvier 87, dans cette petite ville du Nord. Et depuis, plus de nouvelles, plus aucune nouvelle des autorités. Donc, nous avons saisi procureur et police judiciaire d'une description complète des faits. Voilà. Donc, c'est effectivement le procès, mais aussi tout le reste. Une juge d'instruction à Valenciennes qui a remarquablement travaillé, des policiers surmotivés, et puis aussi véritablement un délibéré qui a montré que pour d'autres femmes dont le dossier avait été aussi perdu, il pouvait y avoir condamnation.
Ce qui évidemment rapproche Dino Scala, c'est le lieu, c'est le mode opératoire très caractéristique de Dino Scala et de sa manière de faire.
Oui, Dino Scala, donc c'est le violeur des petits matins, souvent les petits matins d'hiver. En fait, c'était un ouvrier. Il commettait ses agressions sexuelles ou ses viols sur le chemin du travail, quand il se rendait à l'usine où il était mécanicien monteur. Donc, c'était souvent dans la nuit noire, enfin, même si c'était le petit matin, vers 5 heures du matin. Et il avait une cordelette, un opinel, un foulard. Enfin, et il faisait une technique d'étranglement qu'il avait appris au service militaire, une technique d'étranglement particulière pour soumettre ses victimes, et ensuite, après avoir fait son agression sexuelle ou son viol, il leur intimait de compter jusqu'à 20, compter jusqu'à 30, en se cachant les yeux. C'est un peu particulier, c'est pour lui permettre en fait de fuir sans être vu.
C'est terrible parce que quand on entend la description de Plana, le portrait, on se dit on est face à un prédateur terrible, face à un monstre, face à quelqu'un d'absolument horrible. Sauf que dans la vie, il avait réellement un deuxième visage, Alain Bauer. C'était, oui, quand je dis Monsieur Tout-le-Monde, c'était vraiment Monsieur Tout-le-Monde.
Le copain parfait, l'entraîneur de foot, enfin, il avait toutes les qualités. Mais je voulais indiquer deux éléments très importants dans ce qui a été indiqué. Le premier élément, c'est que janvier 87, c'est avant la date supposée de début de la commission de ces agressions, qui est 88-2018. Ça veut dire que ça remet en cause l'intégralité du calendrier de son activité criminelle.
Donc en gros, rien ne dit qu'il n'ait pas commencé bien avant
bien
et qu'il n'ait pas beaucoup plus de victimes potentielles.
Donc un. Deux, il y a 14 dossiers au moins, d'après ce qu'on se disait avec, avant l'émission, qui sont possiblement rapprochables de et qui n'avaient pas été pris en compte jusque-là. Et s'il faut saluer le courage des trois personnes, parce que celle dont le dossier a été écarté pour l'instant parce que très compliqué. On ne sait pas bien si c'est très compliqué parce que pas dans le calendrier, sauf qu'il n'y a plus de calendrier. Si c'est à cause du mode opératoire, sauf que le mode opératoire a pu évoluer, et on l'a vu d'ailleurs dans les débats du procès, puisqu'on lui reproche 56 affaires, il est condamné pour 54, il n'en reconnaît que 40. Donc déjà, il est condamné pour plus d'affaires qu'il ne reconnaît. Premier élément. Deuxièmement, il y a peut-être plus d'affaires que celles qui étaient identifiées. Oui. Ensuite, il y a des affaires en France et en Belgique, beaucoup à Maubeuge, mais beaucoup aussi, enfin un grand nombre dans les environs. Oui.
Et en quoi, le mode opératoire aurait-il évolué? Vous pouvez préciser?
Parce qu'il y a un débat sur le tempo de... Certes, il faisait ça quand il allait au travail, et comment faisait-il quand il n'était pas au travail?
En réalité, on s'aperçoit que Dino Scala a eu aussi des congés payés, qu'il a parfois été blessé aussi au travail et qu'il n'a pas pu s'y rendre, que parfois il a pris des congés pour s'occuper de membres de sa famille, et à ce moment-là, ça coïncide avec des faits qu'on ne lui prêtait pas au début parce qu'on n'était pas au petit matin dont Plane a parlé et qui, en réalité, pouvaient se commettre en fin de journée et dans un autre contexte.
Voilà. C'est tous ces éléments-là qui amènent à reconsidérer. Alors, vous avez raison de le dire, c'est probablement le plus grand prédateur sexuel identifié, ce genre très peu. Depuis Gilles de Rais, on a appris à considérer que la quantité parfois dépassait très largement ce que nous pouvions nous-mêmes admettre. Mais deuxièmement, ça veut dire aussi qu'il y a des morceaux de l'affaire qui commencent avant le calendrier, pendant le calendrier, mais sur des modes opératoires, en tout cas horaires, parce que le mode opératoire physique semble à peu près
similaire,
identique. J'ai pas d'éléments, mais peut-être que vous en avez plus que moi. Mais en tout cas, en revisitant les horaires avec le mode opératoire, on élargit le champ et donc on pourrait être au-delà de 70 faits. Ce qui amène à reconsidérer cette affaire dans une dimension encore pire que celle qui a été indiquée.
Absolument.
Dino Scala s'est confié à quelques experts et a parlé notamment aussi d'une femme avec une couleur de peau particulière et des origines département d'outre-mer qu'on n'a jamais retrouvée dans toutes les victimes que l'on a examinées pour l'instant. Donc même lui parle d'autres femmes que celle qu'on a identifiée à ce jour.
Ça nous ramène aussi à cette période d'impunité, entre guillemets, sous laquelle il était sous les radars. Plana, s'il est passé sous les radars, et c'est ce qu'on se disait, c'est qu'il avait une vie de Monsieur Tout, il avait des enfants, il était entraîneur de foot. Enfin, c'était une vie tout à fait normale.
Oui, oui, à tel point que quand le portrait robot, il y a eu un portrait robot qui a été fait grâce à l'une des clientes d'ailleurs de Maître Rigler, qui a vu le violeur de la Somme, qui l'a décrit, qui a permis aux enquêteurs de faire un portrait robot. Quand ce portrait robot est diffusé seulement en Belgique, il se trouve dans un café où il est avec d'autres personnes. Le portrait robot est diffusé et les gens disent
personne ne tilte.
Voilà. Et parce que à tel point que c'est inimaginable, parce qu'en fait il a vraiment même lui en parle, cette espèce de clivage, ce Dino 1, Dino 2, c'est lui-même qui dit ça. C'est-à-dire qu'il sentait que à la fois il est, c'est vrai que ça a été un bon père de famille, c'est particulier pour ses enfants issus de son deuxième mariage, ses enfants continuent d'aller le voir en prison, sa femme continue d'aller le voir en prison. Donc, il a vraiment une personnalité complexe. Et même lui a dit après aux enquêteurs qu'il ressentait ce que les psychiatres ont décrit comme des pulsions. Enfin, il ressentait cette énorme violence. Mais par ailleurs, en effet, il est entraîneur de foot le week-end. Le soir, il s'occupait de sa maman malade. Enfin
l'un n'exclut pas l'autre. En fait, c'est ce qu'on appelle un profil clivé, non ? Je pense que c'est ce qu'on se voit, mais
Oui, et puis c'est encore plus compliqué que ça, parce qu'on sait que Dino Scala a aussi agressé dans sa famille. C'est-à-dire que ses belles-sœurs se sont plaintes. On a des suspicions sur même ses premiers enfants. Donc, c'est tout sauf un homme bien. Et pourtant, on avait tous envie d'y croire.
Vous employez la bonne expression. Tout le monde disait que c'était un homme bien parce qu'il apparaissait comme un homme bien. Est-ce que c'est pire pour les victimes ?
Non, c'est pas pire pour les victimes. Simplement, les victimes avaient peur que, au procès, ou que dans la série télévisée d'ailleurs, que dans la série Sambre, finalement, ce soit la facette qui soit mise en avant. Et qu'on ait l'impression que c'était le côté face de la médaille qui allait prendre le dessus et qu'on oublierait la partie monstrueuse qu'il a en lui. En réalité, elles ont été rassurées de voir que, certes, il faut absolument pas écarter tout ce qu'il a fait de bien, mais qu'il fallait d'abord effectivement parler de tout ce qu'il a fait de mal et pendant aussi longtemps.
Oui, je voulais dire sur les séries justement que celle-ci a eu un côté à la fois cathartique et pédagogique extrêmement important.
Bon, il faut rappeler qu'à l'origine de la série, il y a quand même un très gros boulot d'enquête d'Alice Géraud.
Un extraordinaire boulot d'enquête, livre formidable, une adaptation
très fine.
Que j'allais dire pas à la française, pardonnez-moi d'ailleurs ça, où la fiction prend tout de suite le dessus sur tout. Et quand on est dans les séries Netflix, je veux dire une horreur, mais au moins c'est fait, on est dans la célébration du côté absolument magnifique de l'auteur. Et
là,
il n'y a pas de glorification. Non. On est dans une logique extrêmement pédagogique, un peu ce que vous et nous, on fait ici et au bout de l'enquête. C'est-à-dire de revenir aux faits, d'avoir une sorte de logique pédagogique sur le fait, revenir, donner les bons mots, mettre en avant ceux qui enquêtent et les victimes, ça n'oublie pas la réalité parfois psychiatrique complexe. Alors, on n'a pas de dédoublement de la personnalité. Hein, d'un point de vue psychiatrique, au procès, les choses étaient claires. Non. Il assume, il sait ce qu'il fait.
C'est important, parce que privé, mais responsable.
Hein. Oui, c'est ça, il assume,
il s'excuse. Enfin, on n'est pas dans le « c'est la faute à pas moi, il y en a un autre qui cohabite dans mon cerveau ». Donc, au moins, on peut lui souligner ça. Mais la série télévisée, dans la manière dont elle a été construite, réalisée et effectuée, est un élément qui peut extraordinairement aider à la révélation de la vérité. De personnes qui se disent en fait, je vais enfin pouvoir le dire et je ne vais pas être regardé comme la victime expiatoire du monstre magnifique, mais comme quelqu'un qui enfin peut exprimer sa voix. Et je pense qu'il y a de ce point de vue-là un gros travail où les médias, et notamment les médias télévisés et les séries, peuvent aussi aider à cela.
Plana, qu'est-ce qui va se passer maintenant avec ces deux nouveaux signalements ?
Alors, ces deux nouveaux signalements, ils sont actuellement à l'étude au parquet de Valenciennes, où une information judiciaire est ouverte depuis mars 2023. L'information judiciaire a été ouverte avec 15 agressions sexuelles et viols, donc qui ont échappé à ce tamis scala qu'avaient dit les enquêteurs qu'on vient de décrire. Donc, c'est-à-dire des choses où on s'était dit le mode opératoire ne correspond pas tout à fait, etc., mais qui ont été réévaluées ensuite après le procès. Donc là, on en a 15. Potentiellement plus d'eux, donc l'information judiciaire va se poursuivre. Dino Scala va peut-être enfin être interrogé, parce qu'il n'a toujours pas été interrogé même depuis mars 2023 sur ces nouveaux faits, donc j'imagine que ça va arriver bientôt, et puis peut-être un nouveau procès Scala.
Et peut-être plus de 70 victimes, c'est ce qu'on disait. Merci beaucoup à vous trois d'amis sur le plateau d'Affaires Suivantes, c'est passionnant de vous entendre et de reprendre cette affaire avec vous. Merci beaucoup. Tout de suite, l'invité de la semaine. Souvent, on vous parle ici de ces affaires non élucidées, ces affaires qui intriguent par leur complexité, mais qui représentent aussi souffrance et espoir pour des milliers de familles plongées dans l'attente. Pour résoudre ces vieux dossiers, des équipes spécialisées d'enquêteurs se sont constituées avec des méthodes nouvelles, des approches parfois différentes. C'est exactement ce que fait notre invitée exceptionnelle de ce dimanche, Marie-Laure Brunel-Dupin. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est ravis de vous recevoir. Vous êtes lieutenant-colonel de gendarmerie. Vous dirigez la cellule Diane, on en parle souvent sur ce plateau de la cellule Diane, c'est la division des affaires non élucidées de la gendarmerie. Vous avez une spécialité, c'est le profilage, l'analyse comportementale des individus. Vous avez amené ça en France, on en parle beaucoup dans les séries américaines, on parlait de séries il y a un instant avec Alain Bauer. Vous avez introduit tout cela en France et vous racontez votre métier à travers un personnage. C'est votre deuxième roman, Serrer les dents. Et il y a le premier qui est là,
oui, c'est ça.
Avant que ça commence, le deuxième, Serrer les dents, rédigé avec Valérie Perronnet, on la salue également. Très intéressant, on va en parler parce qu'en fait, on découvre votre métier. On découvre vous, un peu à travers ce personnage. D'abord, je voudrais une petite question très personnelle. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur le profilage, à vous dédier à ce qui ressort comme une passion à travers votre roman et à ce qui permet, je le disais, de répondre à l'attente de nombreuses familles, parce que c'est ça le but final. Qu'est-ce qui vous anime ?
Alors, je crois que ce qui m'anime depuis le départ, c'est ce qui anime tous les enquêteurs qui travaillent sur ces affaires difficiles et complexes, c'est l'envie de solutionner ces affaires pour les victimes, pour leurs familles. Donc, ce côté vouloir participer à cette justice et sous un angle différent qu'on n'avait pas. Et c'est ce que j'avais envie d'apporter. Moi, j'aime bien comprendre. Ouais. Je suis même parfois obsessionnelle sur beaucoup de sujets.
Il faut peut-être l'être pour que ça fonctionne.
Il faut peut-être l'être. Et en tout cas, ça fait partie intégrante de ma personnalité. Mais j'aime comprendre pourquoi ça s'est passé. Et si le fait de comprendre permet aussi de l'utiliser pour résoudre les affaires, et ben en fait, comprendre un crime, c'est déjà le résoudre un peu.
C'est ce qui vous a amené au profilage et à introduire cette science en France. Racontez-nous.
C'est ça. Alors ça, nous, on appelle ça le département des sciences du comportement. Oui. Donc on appelle ça analyste comportemental et pas profiler, oui. Pour éviter le côté série télé. Et oui. Puis parce que analyse comportementale, ça couvre un champ plus large. Donc,
Et moi, j'ai une question très prosaïque. C'est quoi votre métier? Comment vous travaillez?
Alors, l'analyse comportementale, il y a une petite différence puisque j'ai commencé analyste comportemental et depuis 2 ans, je commande la division des affaires non élucidées et donc je ne pratique plus l'analyse comportementale, même si ça reste évidemment dans mon ADN. L'analyse comportementale, ça consiste à partir d'une scène de crime,
oui.
De ses éléments objectifs, jamais des suspects, contrairement à ce qu'on voit dans les séries télé. Mm-hmm. Et ce qu'on a aussi voulu montrer dans le livre, c'est que c'est pas ça. Mm-hmm. Donc, on part des éléments objectifs d'une scène de crime, de la criminalistique, et on en tire des grandes lignes de personnalité de l'auteur potentiellement capable d'avoir commis ce crime. Et partant de ces grandes lignes de personnalité, on peut orienter les enquêteurs dans les suggestions d'investigation, ou s'ils ont des suspects dans une priorisation, ou ouvrir sur des hypothèses qu'ils n'avaient pas forcément parce que cette compréhension de la scène de crime leur apporte quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va de la scène de crime jusqu'à la cour d'assises, puisque les analystes comportementaux de la Gendarmerie nationale sont tous des officiers de police judiciaire. Mm-hmm. Donc, ils ne sont pas extérieurs à l'enquête, ils sont des enquêteurs
pas comme
spécialisés.
Dans les séries, pardon.
Exactement,
merci.
Ils n'arrivent pas avec...
Merci.
C'est des OBJ, tout à fait, c'est des gendarmes. Et donc, ils vont aussi aider sur des gardes à vue.
Oui.
À partir du moment où on a bien compris la scène de crime, qu'on a compris la personnalité d'un suspect, on pose mieux les questions.
Et donc on peut les adapter, c'est-à-dire qu'on peut les calibrer.
C'est ça. L'objectif, c'est d'avoir la vérité. Hein. Ça ne fait pas avouer les innocents. C'est pas non plus ce qu'on voit dans les films. C'est pas à l'oreillette. Ouais. C'est un travail de préparation long avec les enquêteurs qui vont prendre cette garde à vue. Un travail de réajustement, mettre l'auteur dans les meilleures conditions possibles pour obtenir la vérité et les aveux, si c'est lui, bien sûr. Et tout ça finit à la cour d'assises. Oui. C'est important parce que quelque chose qu'on oublie aussi dans le métier. C'est que ça doit être bien de la scène de crime jusqu'à la cour d'assises parce que ça... On doit apporter des explications sur le travail qu'on a fourni. C'est pas forcément un moment facile.
C'est pas forcément le moment que vous préférez,
non,
parce qu'il faut rendre des comptes d'une certaine manière.
Ouais. C'est pas tout à fait le moment préféré, mais en même temps, c'est important de venir expliquer pourquoi, tous ensemble, on a bien travaillé, parce que c'est pas un boulot solitaire, comme on l'imagine aussi dans les séries. On n'a pas un profiler tout seul dans un bureau. On a une équipe d'analyse comportementale qui vient s'associer à une équipe d'enquêteurs spécialisés avec les unités de recherche.
Alors justement, pour être encore plus concret, il faut reprendre l'avis de Mina Lacan. Mina Lacan, c'est vous.
Alors, elle me ressemble et lui ressemble, mais elle n'est pas moi.
Allez, on va dire que c'est un peu vous. Mina Lacan, c'est un peu vous et elle mène l'enquête. Ça commence à Aubernay, on est le 24 janvier 2004. Aurélie et sa tante Elisabeth, Aurélie a 27 ans, sa tante a 49 ans, vont être retrouvées assassinées dans leur maison qui a brûlé, si je ne dis pas de bêtises. Vous allez arriver, enquêter. Mina Lacan va arriver, enquêter. Elles ont les yeux bandés, les chevilles attachées. Aurélie va avoir subi des actes de torture particulièrement violents. Comment vous faites? Vous arrivez, racontez-nous ce que fait Mina Lacan.
Alors, Mina Lacan et son équipe vont arriver sur cette scène de crime et vont prendre toutes les précautions qui vont avec le respect des lieux et des scènes de crime. C'est important aussi d'être précis. Et puis, on va prendre en compte tout cet espace, tout ce qui s'est passé sur cette scène, le chemin, la façon dont dont l'auteur a mis le feu, quel type de feu, comment, pourquoi.
Ce qui est intéressant, c'est que vous mettez dans la tête de celui qui a commis le crime plus que sur les victimes, entre guillemets.
Alors, on fait les deux. La part de victimologie, elle est très importante parce qu'il faut connaître la victime pour savoir quel genre d'interaction il y a pu y avoir. Donc, c'est cette partie-là. Mais connaître les victimes,
et faire cette analyse en victimologie, tout le monde peut le faire.
Et puis ça suffit pas
sur ça suffit pas. Ouais. Donc il faut vraiment être articulé entre les deux, c'est-à-dire les réactions de l'auteur. Alors pas de fascination pour les auteurs, c'est vraiment mon leitmotiv et c'est important pour donc on n'est pas fasciné, on ne ressent pas leurs émotions, mais on se met dans leurs pas pour essayer de comprendre ce qu'ils sont venus chercher sur cette scène.
On se met dans leur tête.
On se met dans leur tête, oui. Forcément, puisqu'on cherche le mobile, on cherche le pourquoi, quand on a le pourquoi, pour savoir qui. Donc, c'est une articulation particulière, donc il faut rentrer dans leur tête.
C'est une approche différente, nouvelle. Mina Lacan, quand elle fait ça, elle a un peu de moquerie. On la regarde un peu bizarrement. Ses collègues peuvent dire, c'est bien gentil, cette histoire de profilage, mais enfin, c'est des trucs de télé. Est-ce que vraiment ça va nous aider? Vous avez vécu un peu ça?
Oui, on a vécu ça au début. Mes camarades qui sont encore là avec, à mes côtés pour en parler peuvent le dire. On a vécu ça, c'est du passé, vraiment. Là, on est en 2004 dans le deuxième roman, on est en 2001 dans le premier. Donc, c'est normal.
Mais en 2024, c'est comment?
Et en 2024, c'est bien.
C'est mieux. c'est mieux.
On dirige en 2024.
C'est plus un sujet.
On dirige la cellule.
Je suis encore là pour en parler, c'est que ça a dû bien se passer sur la durée. Donc, en 2024, c'est plus un sujet, l'analyse comportementale, ça fait partie de l'enquête judiciaire, c'est pas pour tous les homicides. Non. Et aujourd'hui, ça s'inclut dans une division qui travaille les dossiers différemment. Donc, c'est encore plus pluridisciplinaire depuis que c'est intégré dans la Diane, puisqu'on travaille avec des enquêteurs spécialisés, parcours de vie, parcours criminel, reprise de dossiers anciens, détection de sérialité. On est 23 à la division, c'est une reprise très pluridisciplinaire et toutes ces spécialités viennent se mettre au service de toutes les unités recherche de France.
Alors, on dit souvent qu'il y a une religion de l'ADN, vous voyez, que l'ADN est la preuve ultime. Mais vous, j'ose imaginer que vous pensez le contraire.
Moi, l'expérience m'a montré que non.
Voilà.
Puisqu'on a eu des erreurs à cause de l'ADN. Donc, bien sûr que l'ADN, c'est important. Bien sûr que ça reste un élément de preuve criminalistique très fort. Et l'analyse comportementale n'est pas un élément de preuve. Donc, mais c'est l'ensemble de ces éléments-là. Et, alors, on n'est pas non plus sur la culture de l'aveu à tout prix, mais quand on a des aveux circonstanciés, on est quand même bien.
Revenons peut-être sur les aveux. Les gardes à vue, on en parlait rapidement tout à l'heure. Mais c'est intéressant, à travers le livre, de comprendre quelle aide vous apportez pour une garde à vue. Alors, on prend n'importe quelle... Évidemment, alors avec Pauline, on aurait 10 milliards de questions à vous poser, on va dire aux téléspectateurs, sur plein d'affaires en cours. Il va de soi qu'on ne va pas vous interroger sur des affaires en cours.
Enfin, on connaît votre réponse.
Voilà.
Donc, y répondre.
Voilà, il y a un peu de frustration sur cela, mais c'est bien normal et on le comprend. Mais prenons ceux de votre livre. Vous avez un suspect en garde à vue. Comment vous allez aider? C'est-à-dire que vous allez souffler des questions, pas dans l'oreillette, vous nous l'avez dit, mais vous allez souffler des questions, vous allez dire, lui, il faut y aller plutôt un peu
en force.
Dire en force, il faut y aller en douceur. Voilà, comment vous faites?
Alors en fait, on travaille beaucoup en amont, donc on prépare ces gardes à vue pendant les semaines qui précèdent avec les enquêteurs pour faire des stratégies et de se dire, bon ben voilà, s'il se défend plutôt comme ça...
On va faire comme ça, ouais.
On va s'adapter. Et en fait, en fonction de leur profil, s'ils sont... connus déjà, qu'ils ont eu des gardes à vue, on va faire attention. Je pense à un tueur en série pour lequel il faut pas s'énerver, pas crier, il faut rester toujours très calme parce que sinon il se ferme complètement et on n'a plus de dialogue et sans dialogue on n'aura pas la solution.
Et donc, le droit au silence, il reste un principe cardinal, donc ils peuvent aussi décider de pas du tout collaborer.
C'est ça, donc il faut trouver cette articulation subtile pour le respecter, parce que là aussi c'est quelque chose d'important pour nous, respecter ses droits, son droit au silence, son droit au sommeil, et en même temps, forcément, poser toutes les questions d'enquête qu'on a, et si on a cette conviction, à arriver à la prouver grâce à des aveux. Donc, beaucoup de préparation en amont, beaucoup de réajustements pendant les pauses, pendant que les gardés à vue dorment, nous on ne dort pas.
Beaucoup de collectifs, c'est ça qu'on comprend à travers votre livre, c'est qu'il y a la force de l'équipe.
Collectif. Et pour nous, c'est essentiel. Aujourd'hui, j'ai résolu aucune affaire et j'estime que vous pouvez revenir dans 10 ans, ce sera toujours pareil. Mais j'ai participé à plein d'enquêtes qu'on raconte finalement un petit peu pour rendre hommage et aux enquêteurs et à ce travail, à cette belle institution.
Et toutes les affaires que vous racontez ne sont pas de la fiction, elles s'inspirent du réel et elles ont été
dernière
romancées.
Question, il y aura un volume 3?
Alors justement, avec Valérie Perronnet, on réfléchit. L'idée, c'est pas de faire des épisodes d'avoir 50 épisodes de 50 affaires, même si j'en ai des centaines à raconter, mais plutôt de raconter une carrière. Donc les éléments de la carrière sont réels ou réalistes. Les affaires sont réelles mais transformées. Et donc, on a un petit aperçu dans le premier de ça pourrait être une grande suite.
Merci. Donc, on attend le troisième. Serrer les dents. Merci beaucoup, Marie-Laure Brunel-Dupin, d'être venue sur le plateau d'Affaires Suivantes. C'était un plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup. Pauline, merci d'avoir été avec moi. On vous souhaite un bon dimanche sur BFM TV. La semaine prochaine, donc, Dominique
est de retour.
Allez, Dominique est de retour. Bon dimanche, à la semaine prochaine.